Karina Rosenfeld, je ne vais pas refaire toute sa bibliographie. Hein. La quête des livres mondes, je pense que vous connaissez un petit peu, parce qu'il y a pas mal de gens avec des ailes dans le dos. Peut-être le mystère Olfit, ou bien encore les clés de Babel et les portes de Dorégon, qui est le petit dernier qui vient tout juste d'arriver, et nous en parlerons à ce moment-là. Mais avant de commencer tout ça, je voulais revenir un petit peu sur tes débuts et sur tes sources d'inspiration. D'abord, qu'est-ce qui t'a fait découvrir tout ce qui est science-fiction, fantastique, fantasy ?
Alors c'est très simple, c'est mon papa. Voilà, j'ai un père qui est un fanatique de science-fiction depuis très très jeune. Je crois qu'il faisait partie des premiers lecteurs de science-fiction déjà dans les années 60. Donc il avait acheté un paquet de livres. Et quand j'ai eu, à l'époque, quand j'étais jeune, beaucoup plus, il n'y avait pas de littérature jeunesse comme il y en a aujourd'hui. Et donc j'ai été très vite amenée à piocher des livres dans la bibliothèque de mes parents. Parce que j'étais une très très grosse lectrice. J'ai été vite frustrée de ce que j'avais à ma disposition. Les bibliothèques roses et bibliothèques vertes, ça allait jusqu'à un certain âge. Et après, j'ai enchaîné sur les livres qui étaient dans la bibliothèque à la maison, et c'était de la science-fiction, du fantastique, tout ce qui concernait l'imaginaire. Mon père était aussi un fan de comic books, donc les BD américaines avec les super-héros. Et donc j'ai été un peu baignée de tout ça durant toute mon enfance. Il y a des parents qui sont plutôt pour encourager leurs enfants à lire des classiques. Moi, j'avais des parents un peu originaux pour ça, donc ça m'a permis d'avoir cette source d'inspiration, de me faire une très grosse culture de science-fiction assez jeune.
Tu te souviens de livres qui t'ont particulièrement marqué à cette époque-là ?
Je me souviens du tout premier Asimov que j'ai lu, c'était Les Cavernes d'Acier. Alors ça a été une révélation pour moi. Il y a le cycle de Chai, que j'avais adoré, de Jack Vance. J'étais une grande fanatique de Clifford Decimac aussi. Je crois que j'ai quasiment tout lu. Voilà, donc ça c'est vraiment mes toutes premières lectures. Je devais avoir 13 ans, 14 ans quand j'ai commencé à lire tout ça.
Et à partir de quel moment tu as eu envie de toi-même raconter tes propres histoires ?
J'ai commencé très vite. Avant de commencer à lire la science-fiction, j'avais lu, quand j'avais 9 ans à peu près, L'Armoire magique. Alors, vous l'avez peut-être vu en film, Les Chroniques de Narnia, maintenant c'est un film, hein. Il y a le troisième qui sort en décembre. Mais à l'époque, il n'y avait pas de film, et moi j'ai lu les livres, et j'ai adoré cette histoire. Et j'étais super jalouse de Lucie, la petite héroïne, qui pouvait rentrer dans une armoire et vivre des aventures extraordinaires, et donc j'avais envie de faire comme elle. Et comme ce n'était pas possible de trouver des mondes dans les armoires, j'ai commencé à m'imaginer moi-même les mondes que j'avais envie de visiter. Donc j'ai pris un cahier de brouillon, un crayon à papier, et j'ai commencé à écrire. Je me souviens, j'étais à plat ventre sur la moquette de ma chambre, et j'écrivais comme ça mes histoires. Donc j'ai commencé assez jeune, ma mère les tapait à la machine, ensuite on découpait les pages, faisait la couverture, on a fabriqué des petits livres, j'avais même pas 10 ans. Voilà, c'est devenu assez jeune en fait.
C'est quelque chose qui t'a poursuivi tout le long de ton adolescence ?
Oui, j'ai toujours écrit, j'écrivais dans des cahiers toujours, et je me souviens qu'avec ma meilleure amie, quand j'étais en quatrième, on s'échangeait nos cahiers, parce qu'elle écrivait ses histoires, et on se faisait lire mutuellement nos histoires comme ça. J'ai mon prof de français de quatrième qui m'a repéré parce qu'il trouvait que j'écrivais bien, et qui m'a fait participer à un concours de jeunes écrivains. Il m'a inscrit un peu de force, c'était intéressant comme expérience, et voilà, j'ai toujours écrit, avec plus ou moins d'intensité selon les périodes, mais ça m'a toujours accompagnée, oui.
Tu n'avais pas envie d'en faire ton métier à ce moment-là ? J'ai vu que tu avais fait des études de géographie et d'urbanisme.
C'est-à-dire que quand on est dans le cycle des études, qu'on est au lycée, et qu'ensuite on passe le bac, écrivain, ce n'est pas forcément un métier, une carrière qu'on envisage, parce que déjà, on n'a aucune assurance d'être publié un jour. Donc on ne peut pas dire, mon but dans la vie, c'est d'être écrivain et je ne ferai que ça. Parce que si jamais on n'est jamais publié, tant pis, hein. Donc le but, c'était de faire des études, je continue à écrire et de me dire peut-être qu'un jour j'enverrai un manuscrit chez un éditeur et ça marchera, puis si ça marche pas, c'est pas grave, hein, j'aurai un boulot à côté. Voilà. Donc c'est vrai que mon objectif, c'était avant tout d'avoir un métier et ensuite continuer à écrire pour le plaisir.
Et après, il y a un poste de journaliste dans la presse jeunesse.
Voilà, je suis arrivée, en fait j'ai eu un parcours assez bizarre, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'urbanisme, j'ai eu mon diplôme d'urbanisme, d'aménagement du territoire, et ça m'a énervé. Donc j'ai eu mon diplôme, et après je me suis dit j'ai pas du tout envie de faire ça, et donc j'ai cherché du boulot, mais dans l'édition. Donc j'ai travaillé chez Hachette Tourisme pendant un moment, j'ai fait des guides de voyage, je me suis formée en fait sur le tas, j'ai fait 6 mois de stage chez Hachette pour me former dans le métier d'édition, et après on m'a débauchée dans la presse pour être secrétaire de rédaction pour commencer, donc correctrice, et ensuite je suis devenue journaliste, rédactrice.
En 2004, il y a un premier livre, Lucille et les dragons sourds. Qu'est-ce que c'était que ce livre ?
Alors, c'est une histoire que j'avais écrite quand j'avais 12 ou 13 ans. La trame de l'histoire, je l'ai gardée telle quelle. J'ai quand même amélioré, on va dire, certains éléments et certains détails. Et quand mon fils est né en 2000, j'ai eu envie d'écrire une histoire en me disant peut-être qu'un jour il la lira quand il sera plus âgé. Donc j'ai repris cette idée-là et j'ai écrit Lucille et les dragons sourds. J'ai écrit une première version qui a été refusée par tous les éditeurs et je l'ai retravaillée et j'ai trouvé un tout petit éditeur, Krios, qui a bien voulu me le publier, mais c'était qui s'auto-distribuait. Donc c'est vrai que ça a été une sortie très, très discrète, on va dire. Ça a trouvé très peu en librairie. Ou alors dans 4 librairies à Paris, et c'est tout. Voilà. Mais c'était déjà encourageant, et ça m'a donné, on va dire, la volonté et de continuer, de me dire, c'est possible, je pourrais peut-être continuer à écrire et peut-être me faire publier.
Bon, on est encore un peu avant le Livre des âmes, et en 2004, il y a aussi le guide des 100 plus belles plages du monde.
Bon, ça, c'était surtout alimentaire. J'avais fait pas mal de boulot chez Hachette Tourisme, j'avais fait pas mal de guide de voyage en tant qu'assistante d'édition. J'avais trouvé. C'était un jeune éditeur qui lançait ses collections, qui marche bien d'ailleurs, il a fait plusieurs titres, et qui avait besoin de quelqu'un pour rédiger les parties pratiques. Donc c'était combien de décalage horaire, quelles sont les formalités administratives, c'était pas passionnant du tout. J'ai vu des super belles photos de plage, je me suis dit ok, je veux aller là, mais j'ai jamais réussi à y aller pour l'instant.
C'est pareil, il y a un guide du voyage de noces, quoi.
Voilà, c'est pareil, c'est le même éditeur et j'ai bossé pour les deux à chaque fois.
Parle-nous un petit peu, donc on arrive sur la quête des livres monde. Parle-nous un petit peu comment est née l'idée.
Il y a eu Mister Olfit avant.
Oui, il y a eu Mister Olfit. Comme tu veux, on peut commencer sur
Mister Olfit. Allons-y sur la quête des livres monde.
Alors, parle-nous un petit peu de la quête des livres monde. L'idée originale, qu'est-ce qui t'a amené à écrire cette histoire?
Alors, Denis Guillot qui m'a. En fait, je lui avais envoyé le manuscrit du Mister Olfit, qui finalement a été signé chez La Talente, et Denis avait quand même aimé ce livre et m'avait dit j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et donc je lui ai dit ok, donc j'ai cherché une idée, j'avais envie d'écrire une quête ado. Et puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils doivent trouver, quel va être le méchant, quels vont être les enjeux, puis comme j'aime bien les super-héros, quel va être leur pouvoir, donc j'ai pensé aux ailes, voilà. Et puis ça s'est construit au fur et à mesure. J'ai proposé le pitch à Denis, c'était au mois de juin 2007. Et il m'a dit banco. Et puis de fil en aiguille, c'est pas lui qui a pu le faire parce que ça s'est compliqué. Et j'ai fini par. Il m'a présenté à Constance Jolie Girard, qui était chez Intervista à l'époque. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, elle a été emballée par l'idée et on a signé le contrat. J'avais même pas écrit 2 chapitres. Donc c'est allé très très vite. Et le livre est sorti en août 2008.
Comment tu vois le personnage de Zek, toi qui es l'auteur?
Physiquement ou
Physiquement, comment est-ce que toi tu te le représentes?
C'est vrai que je décris pas dans le détail mes personnages parce que ça permet aux gens de se faire leur propre idée. Et j'aime bien l'idée que chacun ait son Zek ou son Eden ou les autres personnages comme ils ont envie de le voir. Moi je l'imagine, en fait j'ai une très mauvaise habitude, c'est que tous mes héros garçons sont bruns. Parce que j'ai un goût prononcé pour les hommes bruns. Donc il est grand, brun, il est mince. Il est imberbe, puisque je dis qu'il est chibérien, ils n'ont pas de barbe. Il est. C'est un garçon, je pense, au début de l'histoire, qui est assez renfermé et plutôt du genre à se voûter, à vouloir être discret, à se faire le plus petit possible et qui va s'épanouir au fur et à mesure, qui va trouver sa place dans sa propre vie, avec ses ailes, avec sa mission, avec ses amis, avec tout ce qui l'oblige à mûrir et à vieillir, à prendre en maturité avec toutes les épreuves qu'il va traverser. Donc, il a les yeux verrons. Ça, c'est un détail que j'aime bien. Un bleu et un vert. Et c'est quelqu'un, je pense que je l'imagine comme assez troublant. C'est-à-dire que justement, par la différence de couleur des yeux, le côté un peu perçant, le côté un petit peu qui vieillit un peu prématurément à cause de toutes ces épreuves, je pense que quelqu'un qui le croiserait comme ça dans la rue le trouverait un petit peu troublant au premier abord, assez intense.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la planète chez Véry? Comment est-ce que toi tu la vois?
Alors en fait je l'imagine au fur et à mesure que j'écris, c'est-à-dire que quand je me dis tiens je vais peut-être écrire un passage où je vais décrire chez Véry, je me laisse complètement aller à mon imagination. J'ai envie de créer un monde qui pourrait ressembler à la Terre, parce qu'il faut pas, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop différent où je vais rentrer dans des descriptions compliquées, où ensuite il faut beaucoup d'imagination pour pour pouvoir se le figurer. Donc, il va y avoir des éléments très communs, des océans, des montagnes, des bâtiments, des villes, des fleurs. Voilà. Et puis, je vais essayer de trouver le petit élément qui va faire qu'une fleur, un bâtiment ou une ville sera différente de ce qu'on a sur Terre. Voilà. Donc, après, je me laisse aller à mon côté poétique, on va dire. Donc c'est à chaque fois une petite plongée dans un monde. Et c'est vrai que c'est très progressif, c'est-à-dire que je ne l'imagine pas comme une entité, une planète globale où j'ai déjà tous les éléments, où je sais, je connais sa géographie. C'est à chaque fois que je vais mettre un passage dans le carnet de Melior qui va décrire un passage de chez Berit, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'imaginer à ce moment-là? Je me laisse partir.
Comment on travaille quand on fait une trilogie comme ça? Donc c'est un travail qui est assez long, hein, qui s'étale sur plusieurs années. Concrètement, quand est-ce que tu as eu la première idée? Quand est-ce qu'est sorti le premier livre, qu'on ait un petit peu une échelle de temps? Puis après, comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as toute la trame structurée ou tu avances au fur et à mesure?
Alors, la première idée, donc, je l'ai proposée à Denis, qui est arrivé entre-temps, qui est là, en juin 2007. Et puis, le livre est sorti en août 2008. Le tome 2 aurait dû sortir plus vite qu'il ne l'a été en réalité, mais il y a eu des petits soucis entre-temps qui ont fait qu'il a été retardé. Et le tome 3 est prévu là pour le mois de mai. J'ai pas de trame dans le détail, j'ai une trame globale, c'est-à-dire que j'ai découpé la trilogie de façon très simple. Il y a 3 livres au monde à retrouver, donc 3 tomes, déjà ça, c'est pas très compliqué. Donc le but, c'est de retrouver un livre au monde à la fin de chaque livre, ou ne pas y arriver. Bon, jusqu'ici, ils y sont arrivés, heureusement. Et là-dessus, après, mon idée, c'est... Voilà, ça pourrait... Enfin, j'essaye de trouver des idées différentes pour pas écrire le même livre à chaque fois, parce que le but, c'est quand même le même en chaque tome. Donc il faut pas écrire 3 fois le même livre. Donc dans le premier tome, j'ai essayé de faire une enquête avec des indices qui les emmènent d'un endroit à l'autre. Et dans le deuxième, par contre, je veux rien griller. Est-ce que vous l'avez lu, le tome 2? Parce que si je raconte le truc, ça va griller l'histoire. Pour ceux qui auraient envie de le lire, c'est dommage. Mais bon, en tout cas, il y a a priori, dès le début, ils savent où est caché le livre et il va se passer un élément qui fait qu'ils ne vont pas pouvoir y accéder. Et là, on part sur un autre cycle. Sur le tome 3, je pars à l'étranger. Les 2 premiers se passent en France, le 3e va se passer à l'étranger, ce qui va permettre de dépayser un petit peu, de changer un peu d'univers et de façon de chercher le livre. Et puis il y aura la conclusion de la trilogie. Donc là, ça va prendre une grosse partie du 3e tome. Ouais.
Comment tu vis tes relations avec tes personnages? Parce que là, du coup, tu les portes en toi pendant 3 tomes. Ils arrivent, parfois, il y a des auteurs qui disent qu'ils sont presque vivants.
Ah, mais comment
toi, tu les vois?
Ah, ils sont vivants et ils prennent beaucoup de place. C'est-à-dire que souvent, je dis que j'ai beaucoup de monde dans la tête, beaucoup de monde des personnes et beaucoup de monde au pluriel dans la tête. Il y a des moments où c'est carrément, ça m'empêche de dormir. C'est-à-dire que, où d'un seul coup, je vais avoir une idée de scène et les dialogues, et je les vois bouger, je les vois... Je les vois évoluer dans une pièce, je sais comment je vais décrire, comment ils vont arriver, où est-ce qu'elle va se passer cette scène, et comment ça va... Et c'est tellement fort qu'il faut que ça sorte. Alors parfois je me relève et je vais prendre mon ordinateur et je vais écrire la scène là tout de suite, comme ça. Et oui, ils vivent en moi, vraiment. C'est un peu des amis qui sont là. Et puis ce qui est intéressant qu'une trilogie, c'est que je vais les quitter pendant un temps, et puis quand je les retrouve, je suis contente. Ah, oh, vous m'avez manqué, c'est cool de vous retrouver. Voilà. Et alors je sais qu'à la fin de la trilogie, ça va être dur de quitter... Zek, Eden, Louis, ça va être bizarre.
Parce qu'il y a d'autres livres en même temps, comment tu séquences ton temps? Tu dis pendant 6 mois je fais tel livre et je reviens après, ou c'est au fur et à mesure?
J'ai besoin d'écrire autre chose entre chaque tome. Je pense que je me sentirais limitée de devoir travailler sur le même univers non-stop pendant 3 ans de suite. Donc j'ai besoin d'intercaler d'autres livres. Donc entre le tome 1 et le tome 2, j'avais écrit Les Clés de Babel pour Cyrus. Et entre le tome 2 et le tome 3, j'ai écrit Les Portes de Dorégone. Parce que moi je dis d'Oregon. Et ça me permet de me changer les idées, ça me permet aussi peut-être de me sentir plus fraîche quand j'arrive sur je vais arriver sur le tome 3, je suis en train de travailler dessus. Je me sens, je les ai quittés un temps, j'ai un peu oublié, j'ai mis de côté. Quand je les retrouve, j'ai mûri, mes personnages ont mûri, et je les retrouve avec un état d'esprit différent, ce qui permet d'éviter une certaine forme de continuité ou de lassitude. C'est intéressant.
Alors pour les lecteurs qui lisent tes livres, et sans doute très très vite, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de temps ça représente pour toi l'écriture d'un livre?
Ça dépend. Je peux écrire un livre en 3 mois quand je m'y mets vraiment, quand j'ai que ça à faire entre guillemets. L'année dernière, avec le prix des Incos, où j'ai été amenée à voyager beaucoup, j'ai fait une quarantaine de collèges dans toute la France, et c'est vrai que ça a pas mal ralenti mon rythme de travail. Donc Les Portes de Dorégone, par exemple, il a fallu que je mette un grand grand coup une fois que les Incos ont été terminés. Tout le mois de juillet, ça a été parce que j'étais un peu en retard sur mes délais. Là, cette année, j'ai encore les incos avec les clés de Babel qui est sélectionnée à nouveau, mais j'ai prévenu tout de suite que je ferai moins de rencontres parce qu'il faut que j'écrive. Et donc ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire à côté de l'écriture pure. Donc, ça peut varier entre 3 mois, 6 mois, 8 mois si vraiment je suis très occupée à côté.
Voilà, ça, c'est ce que représente vraiment un livre globalement, quoi.
Ouais.
Complètement. Je voulais qu'on revienne peut-être sur le mystère Olfit. Également, donc est le premier. Donc un petit peu même question, comment est-ce que tu as imaginé ce roman?
Alors je l'ai écrit en plusieurs étapes. J'ai dû commencer à l'écrire en 98. Et après en 99, je suis tombée enceinte et j'ai arrêté d'écrire parce que j'avais la moitié de mon cerveau qui était délocalisé dans mon ventre. Donc j'étais plus capable d'écrire. Et quand mon fils est né, j'ai eu envie d'écrire quelque chose pour un public plus jeune. Donc j'ai écrit Lucille et les dragons sourds. Et puis après, mes amis qui avaient lu les 60 ou 100 premières pages que j'avais écrites m'ont tous dit « Ah, mais tu sais, on a envie de savoir comment ça se termine, ça nous avait plu, ce que tu nous avais fait lire. » Je m'y suis remise, voilà. Donc ça a été assez découpé comme écriture, ce qui fait qu'entre le début et la fin, il s'est passé presque 10 ans, donc il a fallu que je reprenne tout le début pour harmoniser l'histoire. L'idée de base m'est venue en regardant un reportage sur les comètes, sur les origines de la vie. Donc ça m'a donné, j'ai appris là la théorie de la panspermie et tous ces trucs-là, je ne savais pas que ça existait, ça m'a permis de construire l'histoire. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai lu, je l'avoue très sans honte, que j'avais lu Les Guerriers du silence de Pierre Bordage et que ça m'a vraiment influencée à double titre. La première, c'est son style d'écriture avec les exergues en début de chapitre où j'ai eu envie de faire la même chose. Et ensuite, c'est là où j'ai découvert La Talente, une maison d'édition que je ne connaissais pas avant, mais elle en était aussi un peu à ses débuts quand elle a publié Pierre pour Le Guerrier des silences. Et je me suis dit, j'ai envie d'être publiée là-bas. Et donc quand j'ai écrit le mystère Olfit, je l'ai écrit en me disant j'ai envie d'être publié chez La Talente. C'était vraiment un petit objectif, genre le challenge, ouais, un jour j'y arriverai et tout. Et je l'ai envoyé là-bas et puis ça a marché. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler un peu la même chose pour Zach? Comment est-ce que toi tu vois ton héros du mystère?
Maor, je le vois, il est très particulier parce que comme il a vécu 10 ans enfermé dans une école isolée du reste du monde, il a un côté très enfantin, très naïf, très, très pur en quelque sorte, parce qu'il est resté enfermé dans ce milieu qui ne connaît rien de la vie extérieure, de la société humaine, et il est projeté là-dedans du jour au lendemain, et en même temps, malgré toute cette naïveté, ce côté très enfant, il va devenir un homme très vite parce qu'il va décider d'aller sauver le monde, rien que ça, et donc ça va l'obliger aussi, encore une fois, à grandir très vite. J'aime bien ce côté, justement, le héros en devenir, qu'est-ce qu'il va faire comme choix, quel chemin il va emprunter pour réussir à se dépasser et à devenir un homme un jour, une femme selon le sexe du personnage. Mais ce sont des thématiques que j'aime bien aborder, oui.
Donc un jeune héros en devenir, est-ce que tu nous en dis un petit peu plus sur les gens qui ont ce lien télépathique avec les comètes et qui sont quasiment sanctifiés?
Donc ça m'est venu après ce reportage que j'ai vu sur les comètes et où il faisait le rapprochement entre la théorie que les comètes pouvaient avoir amené la vie sur Terre en s'écrasant. À une époque, il y a beaucoup de comètes qui se sont écrasées sur la Terre au moment de sa formation. Et la théorie comme quoi les dinosaures ont disparu à cause d'une comète ou d'un astéroïde qui se serait écrasé. Donc ce côté me dire, peut-être que si ces théories sont justes, ces comètes ont eu le pouvoir d'apporter la vie et de semer la mort sur notre planète. Et donc j'ai trouvé que c'était déjà un point de départ intéressant. Et de me dire, ben, on va peut-être pas se limiter juste à ça, au côté hasard. Voilà, c'est le hasard, elles se sont écrasées sur Terre parce que c'était sur leur chemin. Quelque chose de peut-être d'un peu plus conditionné, d'un petit peu plus programmé et d'en créer des êtres un peu pensants. Donc à partir de ce moment-là, comment on rentre en communication avec ces comètes, pourquoi et puis toujours mes idées de super-héros, donc avec un pouvoir particulier, puisque ça c'est une thématique que j'adore. Et donc créer le don de la vision pour les Olfites.
C'est une école tenue par des prêtres. Comment est-ce que tu vois cette espèce de religion? Comment tu l'as construit?
J'ai essayé d'imaginer l'évolution. Les enfants rentrent à 8 ans. À 18 ans, ils ont fini leur formation. Donc, comme ils restent toujours enfermés, même après, ils deviennent prêtres et ils restent dans ces temples en haut des montagnes. Ils n'en sortent jamais. Donc, ce sont des êtres qui sont destinés à rester dans des mondes clos et vivre en vase clos. Donc, après, il y a une évolution. Donc, 8 ans. À 18 ans, ils deviennent des gardiens du silence. Donc là, c'est pendant 2 ans, ils doivent garder le silence pour pouvoir rentrer en concentration permanente, pour rester en communication avec leur comète. Après, s'ils ont réussi à passer cette épreuve, ils vont devenir des prêtres, ensuite des grands prêtres. Et donc, bon, c'est des étapes que j'ai imaginées. Et le fait que ce soit que des hommes aussi, donc tout ce côté un peu eugénisme, de ces femmes qui sont volontaires pour porter un jeune garçon en fuite, en sachant qu'à 8 ans, elles vont devoir s'en séparer et recevoir de l'argent en échange. Donc j'ai essayé de il y a un peu d'ironie dans tout ça aussi, parce que c'est le côté, on arrive un petit peu dans cette tendance de choisir quel sexe on veut et sélectionner le bébé à la naissance, encore sous l'état d'embryon, etc. Quelle qualité on veut, est-ce qu'on veut éviter certaines maladies. Donc j'ai voulu faire rentrer un peu tout ça dans
cette
histoire.
Est-ce que tu vois ça comme une religion qui enferme les êtres ?
Ah, ou dans le mystère fit, carrément, oui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est comment Mahor, en s'enfuyant de son école et en étant en contact de la vie extérieure, va se rendre compte qu'en réalité, il y a une partie des Zolfites qui n'est pas enfermée, avec Icar qui gère la politique quand même de la Terre entière, hein, qui a monté un sacré complot, et qui va obliger les Zolfites à s'ouvrir vers l'extérieur, puisqu'à la fin du livre, on se rend compte qu'avec la découverte qu'on fait sur Sirius, le personnage féminin qui devient finalement l'héroïne du livre, alors qu'on part sur Mahor, et c'est elle finalement qui devient l'héroïne, ça va obliger les Zolfites et tout ce qu'ils ont créé pendant des années, toute cette société fermée va éclater du jour au lendemain après qu'on ait découvert tout le côté machiavélique d'Icar, tout ce que les Zolfites ont fomenté pendant des années, comment ils étaient prêts à sacrifier l'humanité et je pense que oui, là c'est au contraire, c'est s'ouvrir vers l'extérieur et se rendre compte que leur don et leur qualité peut servir à l'humanité autrement que par la destruction.
Et justement, alors, toi, ton rapport en tant qu'auteur à la religion, parce que si j'ai bien tout compris, dans certains livres, il y a des gens qui ont des ailes dans le dos. Là, on parle de prêtres. Il y a les clés de Babel également, avec une sorte de tour de Babel un peu différente. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour toi ? Comment tu vis ça ?
Alors, oui, d'une certaine manière, oui, mais oui et non, parce que quand même, mes personnages qui ont des ailes dans les Chébériens, c'est des extraterrestres, donc c'est pas des anges. C'est pas du tout dans le sens biblique du terme. Ça m'inspire sans m'inspirer, c'est-à-dire que je vais m'inspirer surtout de ce que je vois autour de moi. Les prêtres, c'est ce que je vois dans les infos. Moi, personnellement, je ne vais pas à l'église, donc je ne connais pas de prêtres personnellement, je ne les fréquente pas. Donc c'est quelque chose que je vais complètement inventer et je vais prendre des éléments de choses qui existent, qui sont dans la culture générale, on va dire. On lit les journaux, on sait ce qui se passe, même si on n'appartient pas à telle religion ou si on n'appartient à aucune. Et on va s'en inspirer pour établir des bases d'autres choses. Parce que finalement, les hommes ont tendance à renouveler quand même, à recommencer les mêmes choses, même quand ils se sont trompés, on va recommencer, on va se retromper encore. Et à partir de ces bases-là, modeler quelque chose qui ressemble, mais qui est un peu différent.
On va juste rester 2 secondes sur le Mystère Holfit. Tu as dit que tu as commencé à l'écrire en 98, il est sorti 10 ans plus tard. Alors quel effet ça fait de l'avoir eu entre les mains et quel regard aujourd'hui tu l'as ?
C'était incroyable. C'était fou parce que c'était vraiment un rêve que j'avais eu à une époque où j'étais... Voilà, et puis d'un seul coup, 10 ans plus tard, le rêve se réalise. Et puis j'en garde une énorme tendresse pour ce livre. Je pense qu'il y a certainement plein de maladresses parce que c'était encore le début et j'espère que je m'améliore depuis et que je continuerai à m'améliorer encore dans les années à venir. Mais c'est une histoire que j'adore. Je suis très attachée à ces personnages et ça a été, je pense que ça m'a appris énormément parce que d'un seul coup, j'étais confrontée au regard de professionnels de la science-fiction en plus et donc d'être... sous ce regard, d'avoir leurs corrections, leurs avis, leurs critiques, c'était extrêmement constructif. Et donc c'est vraiment, pour moi, c'est le déclenchement de tout. Voilà. Pour moi, c'est pas Lucille qui est le déclenchement, même si ça a été une belle étape pour me donner confiance et continuer à écrire. C'est vraiment le Mystère Holfit qui a été à l'origine de tout ce qui se passe depuis 2 ans et demi, depuis sa sortie.
Tu parlais de tes personnages qui vivaient un petit peu en toi. Est-ce que Zek et Mahor discutent ?
Non.
En toi ?
Ah non.
C'est vraiment très cloisonné.
Ah non, ils sont très cloisonnés, d'autant qu'ils ne vivent pas aux mêmes périodes, ils ne font pas les mêmes choses. Non. Alors pour le coup, c'est comme je dis, j'ai des petits tiroirs dans la tête et chaque monde, chaque personnage sont dans des tiroirs bien rangés. Quand j'ai besoin, j'ouvre mon petit tiroir et je sors ce qu'il faut, mais mes mondes ne se mélangent pas du tout. Non, jamais.
Une petite question sur les clés de Babel qui est sortie l'année dernière.
Ouais, en mai 2009.
Il n'y a pas très longtemps. Un peu la même question, comment t'es venue cette idée de cette tour de Babel immense ?
Comment elle m'est... Franchement, je ne sais plus. C'était Denis Guillot qui dirige la collection Soon qui voulait que je lui écrive un livre. Et donc, je lui ai proposé... La première idée que je lui ai proposée ne lui avait pas plu. Et après, il a fallu que j'en cherche une autre. Et donc, j'ai eu cette idée-là. Maintenant, exactement comment je l'ai eu, très honnêtement, je ne sais plus du tout. Je crois que Elle est venue comme ça. Voilà, c'était vraiment une idée de ce côté, l'idée de stratifier des peuples à la verticale. C'est déjà le cas sur Terre. On a des mondes, on a des pays, on a des sociétés différentes, des cultures différentes, des religions différentes qui sont cloisonnées par des frontières sur une sphère. Et là, j'avais envie de le faire sur la verticalité et utiliser cette verticalité pour partir de ce qu'il y a de plus, on va dire, plus civilisé en haut vers le pire en bas. Mais en même temps, de s'en rendre compte que l'humanité pouvait se trouver aussi en bas malgré tout. Voilà, parce qu'on se rend compte après que le peuple qui paraît le plus déformé, le plus méchant a priori, il l'est pas forcément. Et puis après, bah, l'histoire, elle se construit au fur et à mesure. Voilà, donc ça a été... J'ai eu très vite l'idée des destins croisés, c'est-à-dire partir d'un personnage, passer sur un autre, revenir à l'autre, et introduire un troisième, et ainsi de suite, et qu'on passe de l'un à l'autre jusqu'au moment où ils se retrouvent tous, puisqu'il y a cinq adolescents qui se retrouvent tous au final. Ça, c'est venu très rapidement, par contre. Je voulais pas que ce soit linéaire, on part du point de vue d'un personnage et on le suit. Ça permettait d'aborder les passés et les cultures de chaque strate de civilisation de l'intérieur directement, et pas forcément du regard étranger de l'Iram, qui est le premier héros qui descend de tout en haut vers le bas, comme un touriste qui découvre des choses et qui s'émerveille ou qui s'horrifie. Là, on avait aussi du point de vue de l'intérieur par chaque personnage qui trouvait ça parfaitement normal puisqu'il y vivait depuis sa naissance. Donc ça permettait aussi d'avoir un regard vraiment de l'intérieur.
Alors justement, tu parles de construction d'histoire, c'est intéressant parce qu'on comprend bien qu'il y ait des idées, mais comment est-ce que de ces idées tu construis l'histoire? Par exemple, est-ce que les personnages sont venus tous en même temps? Ou progressivement, tu as pris des notes? Comment ça s'est imbriqué? Comment ça se construit?
Non, y a une partie... En fait, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une partie que j'ai déjà imaginée à l'avance et qui va me permettre de savoir où je vais. Et il y a une partie que j'invente au fur et à mesure qui vient compléter ce que j'avais au début. D'autant plus que souvent, mes personnages, ils vont prendre des décisions auxquelles je ne m'attends pas. Quand je commence le livre, je me dis, ah tiens, oui, c'est vrai. L'exemple le plus flagrant, c'est vrai que là, on parle des clés de Babel, mais... L'exemple le plus flagrant de personnage qui en a fait qu'à sa tête, c'est Léa dans La Quête des Livres Mondes, où vraiment au début, je lui avais donné le rôle de potiche dans le tome 1, où cette fille, elle était juste là pour montrer Zek qui se prenait des râteaux avec les filles et qu'il n'avait pas de chance et que ça construisait sa personnalité d'une certaine manière. Et d'une certaine manière, elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait pas envie de se cantonner à ce rôle-là et j'ai développé son personnage d'une façon complètement inattendue. Et en même temps, quand ça s'est imposé à moi, c'était comme ça et ça ne pouvait pas être autrement. Et je ne m'y serais pas attendue du tout quand j'ai commencé à écrire l'histoire. Et donc ça entraîne des idées auxquelles je n'avais pas pensé quand j'ai commencé à construire l'histoire au départ. Donc c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que j'ai quand même des grandes lignes qui me permettent de savoir où je vais, d'aller dans une direction, parce que sinon après on se perd. Et puis après je me permets de dévier un peu, revenir, repartir. Et, voilà.
Et est-ce que parfois tu as des grandes lignes comme ça qui s'arrêtent et tu ne sais pas comment continuer?
Oui.
Ouais.
Ah, oui.
Il y a des histoires qui veulent pas accoucher, entre guillemets.
Oui, bah, il y a des histoires, je pense qu'on n'arrivera jamais au bout. Il y a des histoires où il faut changer des passages entiers parce qu'on se dit, bah non, ça marche pas. Voilà, donc, mais je pense que ça fait partie non seulement de la vie des livres. Nous aussi, parfois, en tant qu'humains, on se retrouve devant des murs et il faut apprendre soit à les contourner, soit à passer au-dessus quand c'est possible, ou alors à faire demi-tour et trouver un autre chemin. Et en même temps, c'est l'expérience, c'est-à-dire que ça permet aussi de savoir quelles sont nos limites. Et peut-être se dire dans le prochain roman je me lancerai pas dans ce genre de choses parce que je suis pas encore prête ou je le serai jamais, et savoir se dire ok, maintenant je vais rester là-dedans parce que voilà, c'est pas encore mon domaine.
Alors ça fait plusieurs romans, plutôt des romans écrits pour des jeunes lecteurs ou des ados. Est-ce que c'est un choix volontaire ou est-ce que c'est un peu les hasards de l'édition qui ont fait qu'ils sont arrivés dans des collections jeunesse?
Alors, c'est vrai que bon, Lucille et les dragons sourds, quand je l'ai écrit, c'était vraiment jeunesse. Là, c'était évident. Le mystère Elfite, quand je l'ai écrit, je pensais au départ l'écrire pour les adultes. Peut-être parce que, justement, par contraste avec Lucille, ça me paraissait tellement plus mature et tellement plus âgée que c'était pour moi, c'était pour les adultes. Et quand je l'ai envoyé à la Talente, ils m'ont tout de suite dit non, c'est jeunesse, les héros sont jeunes, justement, le héros en devenir, toutes ces choses-là qui sont vraiment caractéristiques de la littérature jeunesse. Et je me suis retrouvée vraiment... auteur jeunesse avec ce deuxième livre en jeunesse, même si c'était pas pour la même tranche d'âge, et je m'y suis trouvée très bien et je me suis rendu compte que c'était ma place, en tout cas actuelle, que c'était là que j'avais envie de continuer, donc voilà, j'ai enchaîné.
Dans tes romans, on peut y trouver souvent beaucoup de choses, c'est volontaire tous ces espèces de messages ou ces incitations à réflexion?
Oui, j'essaye sous parfois des apparences de légèreté, je vais essayer quand même de faire passer quelques messages. Alors, on ne les voit pas, ce n'est pas grave. Si on se cantonne à la lecture plaisir, ça n'a aucune importance parce que la lecture doit être avant tout du plaisir. Maintenant, si on arrive à passer dans la couche inférieure et à trouver qu'il y a des petits messages ou des petits sujets de réflexion, tant mieux, c'est très bien. Maintenant, ce n'est pas mon but premier. Je ne suis pas là pour faire de la philosophie, je suis pas une prof, ni rien du tout. Mais voilà, on va dire à ma modeste place, si je peux faire passer des petites choses, tant mieux.
Et tu te verrais écrire d'autres choses maintenant ou tu as d'autres envies? Par exemple, écrire du polar ou de la science-fiction plus adulte?
L'adulte, pour l'instant, non, ne me branche pas du tout. Je suis très bien en jeunesse et je pense que justement parce que déjà l'accueil du public est tellement extraordinaire en jeunesse, tout ce qui se passe, les rencontres, les prix, le retour que j'ai de mes lecteurs entre... Ben voilà, quand je le vois avec des ailes dans le dos, quand je vois les commentaires que j'ai sur mon blog, c'est tellement passionné que j'adore. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'essaye d'entretenir ce contact tant que je peux avec le lecteur. Et puis, l'univers de la jeunesse en général, je pense qu'il me correspond bien. Peut-être que dans 10 ans, j'aurais envie de changer. On m'a sollicité pour écrire un thriller. J'ai prévenu tout de suite que j'étais pas sûre d'être capable de le faire parce que c'est pas du tout mon domaine. Je vais voir. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah, tant pis.
Petite question sur tes personnages. Ce sont des ados. Comment est-ce que tu es construit et quelle est la part de toi dans tes héros?
Alors, j'ai rencontré l'année dernière 3000 collégiens à peu près par rapport à la quête des livres au monde. Et c'est vrai que ce qui m'a rassurée, c'est qu'ils m'ont tous dit comment vous avez fait pour écrire des ados qui me ressemblent vraiment. Parce que c'est vrai que ça fait quand même un paquet d'années que je ne suis plus ado. Et puis les ados d'aujourd'hui ne ressemblent pas tellement à l'ado que j'étais il y a bip année et donc j'ai déjà essayé de me souvenir moi de ce que je ressentais quand j'étais ado quand même parce que je pense que même s'il y a des choses qui changent, il y en a beaucoup qui ne changent pas, la transformation du corps, le rapport à l'enfance qu'on quitte et au monde des adultes qui nous attend, tout ça c'est des choses qu'on traverse tous quelles que soient les générations. Et après j'observe autour de moi. Mon fils n'est pas encore un ado, donc c'est vrai que ce n'est pas lui qui m'a servi de modèle. Mais j'ai des copines qui ont des enfants ados. J'ai essayé de voir ce que je vois autour de moi. Je suis restée assez jeune dans ma tête, donc c'est vrai que j'aime bien regarder des films, écouter de la musique, des trucs comme ça, qui sont vachement encore dans le domaine du jeune. Et ça me permet de rester connectée et j'espère de pouvoir leur ressembler encore pendant quelques années pour être au plus près d'eux.
Alors justement, tu parles de ton fils qui a 10 ans, si
ouais.
J'ai bien tout
suivi. Il va avoir 11 ans en janvier, oui.
Il lit déjà du Karina Rosenfeld?
Alors, il a lu Lucille, il a lu À la poursuite des humutes, qui est un petit livre qui est sorti chez Cyrus pour les primaires. Donc, quand il était en primaire, c'était très bien. Là, il est en 6e. Il lit pas plus pour l'instant, déjà parce qu'il m'entend parler toute la journée. Donc, je pense qu'il connaît mes histoires par cœur, il n'a pas besoin de les lire. Premièrement, et deuxièmement, j'ai pas envie de le forcer parce que ça reste quand même du domaine de mon travail, même si c'est que du plaisir, c'est aussi du travail et qu'on mélange pas forcément son travail avec sa vie personnelle. Si un jour il a envie de les lire, ils sont dans la bibliothèque, il sait qu'il peut se servir. Maintenant, il connaît les histoires, il connaît les personnages. Quand il me voit travailler, il a, alors là, tu travailles sur quel roman? Ah bon, t'en es que là? Ah ouais. Et donc, j'ai un petit inspecteur du travail à la maison. Donc il est baigné au quotidien dans mes univers et il a les siens parce qu'il a beaucoup d'imagination aussi. Donc je pense que pour l'instant, ça va. On verra s'il a envie de les lire. Il n'y a pas de souci.
Parlons un petit peu du dernier. Alors, les portes de Dorégon.
Oui.
C'est comme ça qu'on doit
dire.
J'ai dit
Dorégon, oui, moi. American.
Yeah, okay, right. Qu'est-ce qu'on peut y lire dedans? Qu'est-ce que tu peux nous résumer un peu l'histoire?
Alors, déjà, c'est un livre qui est très différent des précédents dans le sens où, pour deux choses. La première, c'est qu'il est écrit à la première personne et que c'est la première fois que j'ai écrit un livre à la première personne. Et ça change beaucoup de choses. Au rapport au personnage et la manière d'écrire, c'est très intense comme expérience. On est beaucoup plus proche du personnage parce qu'on dit « je ». Donc, d'un seul coup, « je », c'est moi. Donc, c'est très bizarre. Les personnages sont plus âgés, ils sont étudiants à la fac. Donc déjà, leurs expériences, leurs émotions... leur relation au monde est différente. Parce que quand on a 16 ans et quand on en a 22, on n'a pas du tout la même expérience de vie et on n'a pas la même façon d'aborder les choses. Donc je les ai construits un petit peu plus mûrs, un petit peu différents, un peu plus adultes. Donc c'était agréable aussi pour moi de remonter un petit peu en âge, au moins le temps d'un livre ou deux pour pouvoir me sentir moi-même peut-être un petit peu plus proche d'eux et aborder d'autres choses. Donc aborder un peu plus de sexualité, par exemple, puisqu'ils sont plus grands. Hein, donc voilà. Ce qu'on y trouve, on y trouve un personnage qui s'appelle Mia, qui est l'héroïne. Donc c'est elle que je décris à la première personne, qui est étudiante aux Beaux-Arts. Donc elle a une vingtaine d'années. Elle peint. Elle est passionnée par la peinture, c'est pour ça qu'elle est étudiante aux Beaux-Arts. Et elle peint un monde qui s'appelle d'Oregon, qu'elle a inventé. Voilà, donc elle le peint. Elle peint le château, elle peint le village, elle peint la campagne, elle peint la forêt. Elle passe sa vie à peindre d'Oregon. Et un jour, un homme bizarre, qui s'appelle Garmon, va l'aborder et va lui dire « J'ai un secret à partager avec toi ». Il va lui chuchoter quelques mots à l'oreille. Et après ça, elle va avoir le pouvoir de rentrer dans ses peintures et de rentrer dans d'Oregon. Et là, elle se rend compte qu'en fait, elle n'imagine pas d'Oregon, que d'Oregon existe déjà et qu'elle est en connexion avec ce monde. Et c'est pour ça qu'elle le peint, comme une espèce de transmission qui viendrait jusqu'à elle. Et elle peint ce monde et elle en ouvre des portes, puisqu'à chaque peinture, c'est une porte qu'elle ouvre sur ce monde. Et d'Oregon, en fait, pourquoi ça s'appelle les portes de d'Oregon? C'est pas seulement parce qu'elle, elle ouvre les portes de d'Oregon, mais parce que d'Oregon est un monde dans lequel il y a plein d'autres portes vers d'autres mondes. Donc c'est un peu un abysse. En abîme, pardon, une mise en abîme de monde, de portes qui s'ouvrent sur d'autres mondes. Voilà. Et en fait, d'Oregon est le sas de sécurité entre ces autres mondes et la Terre, parce que s'il en sort des choses mauvaises ou si ces mondes présentent un danger, d'Oregon fait tampon entre la Terre et ces mondes. Et elle doit aller là-bas pour devenir le veilleur et pour surveiller ces mondes, ce qu'ils deviennent, comment ils se créent, comment ils évoluent, et éventuellement les refermer quand ils sont dangereux. Et donc, elle doit surveiller toutes ces portes dans d'Oregon. Voilà. Donc, c'est le tome 1. J'ai presque fini d'écrire le tome 2 là. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, on va voir, il faut que je vois ça, je vais en profiter de voir ça avec mes éditeurs qui sont là. Mais il est presque terminé et je n'arrive pas encore à savoir si j'ai fait un gros tome 2 ou si je fais un tome 3 ou si je coupe en deux, je ne sais pas encore, on va voir.
Voilà. Il nous reste un petit quart d'heure, on a encore plein de questions à lui poser, mais est-ce que vous avez des questions vous à poser? Je vais vous apporter le micro. Marche, oui, marche.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je voulais savoir quels étaient tes genres de lecture.
Aujourd'hui ou ce que
oui,
je lis maintenant?
Oui, ce que tu lis.
Je lis pas mal de littérature de l'imaginaire. Donc, ça comprend un peu de science-fiction, un peu de fantastique. Je lis peu de fantasy. À part Le Seigneur des Anneaux ou les grands classiques de la fantasy, j'en lis très peu. Plus du fantastique et de la science-fiction. Et à côté de ça, de la littérature très classique. Ce que j'appelle, moi, les romans de blonde, c'est les romans de filles, quoi, les trucs genre l'accro-shopping ou je sais pas quoi. Ça me fait vachement marrer, j'adore. Et puis de la littérature plus classique avec des auteurs qui vont faire des histoires très sérieuses, etc. Je suis une grande fan de Jonathan Tropper, qui est un auteur américain qui a écrit plusieurs livres qui racontent l'histoire d'hommes, en général, à qui il arrive toujours un truc... une mort, un décès, une maladie, un cancer, un truc, etc. Et qui doit surmonter, c'est pris avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'ironie, avec beaucoup de second degré. Et il y a toujours des situations incroyables avec des familles complètement folles, des pères bizarres. Voilà. Et ça, j'adore cet auteur. Il y a Jennifer Weiner, qui est aussi un auteur américain que j'adore, qui écrit un peu des romans de blonde, mais qui ont beaucoup de profondeur, avec des relations humaines qui sont très très bien décrites. Voilà, j'adore les romans, les Angéliques, la saga des Angéliques de Anne Gollon, roman historique extraordinaire. Donc, j'ai des goûts assez éclectiques. Maintenant, c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, on m'a sollicité pour un thriller, et par contre, je ne suis pas du tout thriller, j'en lis pas. Donc, c'était pour ça que me sentir d'en écrire un, c'était quelque chose qui me paraissait un peu difficile. Donc, j'ai commencé à en lire, là, justement, pour voir si c'était un univers avec lequel je pouvais rentrer en résonance. Voilà, mais après ça dépend, je vais en librairie, je trouve une quatrième de couvre qui m'intéresse, pouf, je prends. J'ai une bibliothèque qui déborde de livres chez moi, donc si tu veux venir faire un tour un de ces jours, hein, tu es la bienvenue, tu pourras aller piocher dedans et Léo il sera content de te revoir.
Voilà, ça vaut pour tout le monde, hein. Est-ce que quelqu'un a une autre question à lui poser? Allez-y.
Dans la quête des livres monde, pourquoi avoir choisi des livres pour consigner les données de chez Bérit?
Alors déjà parce que j'aime l'objet livre, déjà pour commencer, c'est pas pour rien que j'en écris, donc c'était une évidence. Maintenant, parce que je voulais pas, on m'a dit pourquoi pas un CD-ROM, c'est vrai, pourquoi pas un DVD-ROM, CD-ROM, un truc, et je me suis dit c'est un peu facile, c'est-à-dire qu'ils viennent quand même d'une autre planète, qui est censée être méga évoluée, machin et tout, pourquoi est-ce qu'il y aurait des CD-ROM sur une autre planète ? pourquoi est-ce que leurs ordinateurs seraient les mêmes que les nôtres? Non. Donc, j'avais pas envie. Et puis, je me suis dit, sur Terre, il y a une chose qui existe dans toutes les cultures, dans toutes les époques, même à l'époque où les hommes, d'un bout à l'autre de la planète, ne communiquaient pas parce que c'était pas encore possible. On laissait des traces écrites, des parchemins, des livres, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent dans l'histoire de l'homme, pensant, en tout cas, de laisser une trace écrite. Et le livre est un objet qu'on retrouve dans toutes les cultures. Et je me suis dit, c'est quelque chose qui peut se trouver sur une autre planète sans problème, qui est quelque chose, on va dire, d'universel. Et j'ai trouvé que c'était un objet qui était intéressant pour ça.
Est-ce que quelqu'un...
Comment on fait pour dissimuler ses ailes?
Alors, je l'ai eu souvent celle-là. Alors, c'est très simple. C'est vrai qu'elles ont l'air super grandes, leurs ailes, comme ça. Et surtout, la façon dont elles sont dessinées sur la couverture, elles sont particulièrement gigantesques. Moi, je ne les vois pas aussi grandes que la façon dont elles sont dessinées. Maintenant, l'illustrateur, il a aussi son imaginaire et on a envie de bien souligner sur une couverture que ce sont des personnages qui ont des ailes, donc on va les faire grandes pour qu'elles soient bien visibles. Maintenant, moi, je suis une grande fan des super-héros. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez Superman. Vous connaissez tous Superman. On est bien d'accord que Superman, il cache son costume sous son costard de journaliste de Clark Kent. Alors, ça paraît facile parce qu'il a un costume super moulant, hein, qui laisse bien voir ses abdos, ses muscles, tout ça. Mais donc, c'est facile à cacher sous une chemise ou sous un pantalon. Mais est-ce que vous avez pensé à la cape? Parce que quand il fait comme ça et qu'on fait « Oh, elle est beau !» Il a quand même la cape. Comment il fait pour la plier en tout petit et pas avoir l'air bossu là où elle est pliée dans son dos? Est-ce que vous savez, vous? Ben non. Et en fait, on s'en fout. On est bien d'accord. Est-ce que franchement, ça nous intéresse de savoir comment Superman il fait pour plier sa cape dans son dos sous sa veste? On s'en tape complètement. Ben moi, c'est pareil. Franchement, comment ils cachent leurs ailes sous un t-shirt, on s'en fout. Ça fait partie du mystère du super-héros.
Une autre question.
Pourquoi vous avez accepté de participer aux Incorruptibles alors que vous étiez la lauréate de l'année dernière?
Pourquoi j'ai accepté?
Oui.
Pour cette année encore?
Oui.
Déjà, je ne sais pas que j'accepte, c'est que mon livre il est sélectionné, donc je n'ai pas trop mon mot à dire. Hein. Ce n'est pas moi qui dis j'ai envie de faire partir des Incos. Hein. Il y a des comités de sélection qui lisent des tas de livres jeunesse qui sortent et ils choisissent ceux qu'ils préfèrent. J'ai eu vachement de la chance. Deux années de suite, les comités de sélection m'ont sélectionné pour les 5e, 4e, pour le prix des Incos. Après, on n'a pas le droit, on ne va pas dire « Non, finalement, vous êtes sympa, mais je n'ai pas envie. » Ça ne se fait pas. Ensuite, même si ça se faisait, je ne l'aurais pas fait parce que je trouve que c'est une aventure extraordinaire, les Incos. Ça permet d'aller à la rencontre de ses lecteurs. Et pour moi, c'est hyper important parce que le livre, ce n'est pas juste un objet, c'est quelque chose de vivant. C'est-à-dire que le livre, il se vit, il se lit. Vous en parlez entre vous, quand vous me rencontrez, vous avez l'occasion d'en parler avec moi. Les personnages deviennent presque vivants, ils sont presque là, posés quelque part dans le public, parce qu'on en parle, parce qu'on leur donne une épaisseur. Et je trouve que c'est la plus belle aventure qui puisse arriver à un livre. Il n'est pas juste posé sur une étagère en train de prendre la poussière, il est vivant, on est tous en train d'échanger dessus, on en parle. Quand je parle de Zec, quand je parle de Louis, quand je parle, vous savez tout de suite de qui je veux parler, comme si c'était hyper normal, que tout le monde connaît Zec. Et je trouve ça merveilleux, et donc je trouve que c'est une très très belle aventure, et franchement, je serais sélectionnée 3 ans, 4 ans de suite, je continuerai à le faire.
Comment vous tenez-vous au courant des avancées scientifiques?
Alors, il y en a beaucoup des avancées scientifiques qui me passent carrément au-dessus de la tête. Je ne suis pas du tout scientifique, maintenant je me tiens au courant, d'ailleurs, tu as trouvé que je parlais beaucoup de science dans mes bouquins? Par exemple, donne-moi un exemple de... À quel moment je parle de science dans mes livres?
Je m'en souviens plus.
Tu vois, franchement, les livres de la trilogie, c'est des livres que j'invente. Donc là, que ça existe ou que ça n'existe pas scientifiquement, c'est moi qui l'invente, donc on s'en fiche. Après, Zec, il a un ordinateur, il a un iPod, je ne suis pas allée chercher loin. Donc voilà, après, je suis comme tout le monde. Hein, je vois que maintenant, on a des écrans plats contre les murs. Je vois les avancées technologiques, des trucs comme ça. Et comme j'essaye de décrire quand même des choses qui se passent un peu aussi dans la réalité, de la vie quotidienne, je vais me cantonner à ça. Maintenant, si j'avais vraiment besoin de faire des recherches, soit je cherche moi, sur Internet, à la bibliothèque, je vais prendre des livres, je vais me renseigner dans des journaux, des choses comme ça. Soit je vais essayer de trouver une personne en particulier qui est spécialisée dans un domaine et je vais essayer de la rencontrer pour l'interroger là. Je suis sur un projet où l'héroïne de mon roman joue du violoncelle. Moi, je ne joue pas du tout de violoncelle. J'ai fait de la musique, mais pas du violoncelle. Et j'ai pris rendez-vous avec un prof de violoncelle pour savoir comment jouer du violoncelle, en quelle clé ça se lisait, quelle sensation on a d'avoir les cordes sous le doigt, de tenir l'archet. Voilà, donc ça, c'est des détails que je vais chercher en allant me renseigner auprès des gens. Donc ça peut être avancée scientifique, ça peut être autre chose. Mais c'est vrai que je ne suis pas très scientifique et j'évite d'en mettre dans mes bouquins parce que c'est un peu au-delà de ma portée. Et je ne m'y connais pas assez bien pour aller raconter des trucs comme ça.
Comment se sent-on à quelques jours de la parution du nouveau livre d'Oregon ?
Déjà, si vous voulez, il est là, il est déjà sorti. Et on le vend là à la librairie, donc si vous le voulez, c'est l'occasion, vous l'aurez avant tout le monde. C'est toujours super excitant. Et je l'attendais vraiment avec impatience, celui-là, d'autant plus que, comme j'ai expliqué, ça a été vraiment une nouvelle expérience d'écriture pour moi, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Et j'avais envie de savoir comment ça allait être perçu par le public, par mes lecteurs qui me suivent depuis plusieurs bouquins, et de me dire comment ils vont le vivre, est-ce qu'ils vont me suivre dans cette aventure, est-ce qu'ils vont se dire « Ah non, finalement, ça ressemble pas, on préférait tel truc ». Et donc, c'est un peu d'appréhension quand même, ils vont peut-être pas aimer. Et l'excitation de me dire « Je vais peut-être les embarquer avec moi dans une nouvelle aventure », et c'est ça, c'est super excitant.
Vous publiez certains de vos livres chez Intervista dans la collection Cinémascope, dirigée par Luc Besson. Est-ce à dire que certains de vos livres pourraient être adaptés au cinéma ?
Alors, comment dire ça ? À la base, Luc Besson, quand il a créé Intervista, il l'a fait pour pouvoir faire ses romans d'Arthur, puisqu'il avait le film, les romans, etc. Après, il s'est dit que ce serait une bonne idée d'élargir cette Cinémascope pour pouvoir faire d'autres bouquins et éventuellement trouver des idées de films. Sauf que jusqu'ici, ça n'est jamais arrivé. Et je pense très sincèrement qu'il ne lit pas les livres qui sont publiés chez lui. C'est lui qui donne son accord sur la publication. C'est-à-dire que pour La Quête des Livres au Monde, j'ai écrit un pitch qui a été envoyé à Luc Besson. Il a lu le pitch et il a dit « ça me plaît, on le fait ». Voilà. Mais je pense qu'à part le pitch, il n'a pas lu les bouquins. Il a un peu laissé tomber Intervista en tant que Luc Besson. Maintenant, c'est Glénat qui s'occupe des livres Intervista. Donc, c'est plus chez Besson... C'est plus EuropaCorp. Donc, je ne sais pas. À mon avis, il y a très peu de chances pour que Besson s'y intéresse un jour. Voilà. Ça peut peut-être arriver. Peut-être qu'un jour, ça tombe sur le coin de son bureau ou ça marche tellement bien qu'il se dit « Tiens, celui-là, pourquoi ?» plus que les autres. Mais très sincèrement, je ne pense pas.
Et est-ce que le nom d'Eiver a un rapport avec Ève dans la Bible ?
Est-ce que j'ai pas entendu?
Le nom d'Eiver, c'est un rapport avec Ève dans la Bible?
Ah non, pas du tout.
Non.
Alors, ceux qui ont les ailes, on vient du collège Anastri, et donc c'est ceux qui ont participé aux incorruptibles l'année dernière.
D'accord.
Et donc, il y a une professeure de français qui est avec nous et qui a proposé qu'on pose la question. Donc, pour ceux qui ont des ailes, si vous étiez une de nos paires d'ailes, laquelle choisiriez-vous? Donc, ceux qui ont des ailes vont se lever, vous n'aurez plus qu'à choisir.
Regardez, je vais choisir celle que je préfère. Alors, attention, parce que je ne veux pas vexer les autres après. Elles sont toutes jolies, n'empêche. C'est vrai que j'aurais tendance à avoir une préférence avec celles qui sont un peu en coton, là. Déjà, pour commencer, je suis désolée pour les autres. Ah mince,
j'ai vexé la prof.
Non, là, vos deux ailes, là, elles sont jolies, là. Là, elles sont belles. Mais elles sont toutes belles, hein, franchement. Bon, là, ça fait un peu plus papillon. Donc, c'est vrai que c'est pas tellement les ailes de Zek et Eden, ce sont pas tellement comme ça, mais elles sont belles. Vous avez bien bossé, hein. C'était pas trop long à coller le coton, comme ça. Ah, j'imagine.
On a encore le temps pour une dernière petite question. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Ou est-ce qu'on va libérer Karina? Bon, eh bien, merci beaucoup. On va libérer Karina. Profitez-en, car elle va être en dédicace avec Jean-Claude Duniac, Brandon Sanderson et Jean-Michel Calvez dans 3 minutes. Merci à vous.